Voilà, nous savons que le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était parfait. La Bible dit que lorsque Dieu vit sa création, il reconnut que cela était bon. Nous savons que par la suite, l'homme a péché et ayant péché, sa nature, telle que Dieu l'avait créée selon la ressemblance de Dieu, cette nature a été détériorée, a été polluée à cause du péché. Et nous voyons que dès l'instant où l'homme a péché, l'homme n'était plus dans la présence de Dieu à cause du péché. Mais dès lors, le Seigneur a mis en marche un processus pour ramener l'homme à l'état d'homme spirituel. Il était spirituel à sa création. Mais lorsqu'il a péché, il est devenu païen en manifestant totalement les œuvres de la chair. Et le Seigneur a voulu restaurer cette nature qu'il avait mise en l'homme. Et cette même nature que le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer en nous donnant le Saint-Esprit, pour que nous puissions manifester les mêmes œuvres que lui, que nous puissions être réellement à la ressemblance de Dieu telle que le Seigneur l'avait voulu depuis le commencement. La volonté de Dieu lorsqu'il a sorti son peuple de l'Égypte en l'interdisant de manger certains aliments, en interdisant son peuple de pratiquer les coutumes des peuples, des autres peuples, le Seigneur voulait mettre sa marque. Le Seigneur voulait qu'à travers ce peuple, que les étrangers puissent discerner, puissent comprendre que ce peuple était à part, que ce peuple était saint parce que leur Dieu était saint. Il y a toujours eu dans la volonté de Dieu que l'homme qu'il a créé à son image vive aussi selon l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Le Seigneur est venu nous montrer la voie. Et la Bible nous demande de marcher désormais en homme spirituel. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Moi, je m'en vais, mais vous ferez les mêmes œuvres que moi, et vous en ferez aussi de plus grandes, parce que moi, je m'en vais au Père. » Le Seigneur montrait à ses disciples que la vie qu'il a menée, les œuvres qu'il a manifestées, les miracles qu'il a opérés, que nous, ses disciples, nous sommes appelés à être à son image, à manifester les mêmes œuvres que lui, afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le nom du Père soit honoré. Et c'est là la volonté du Seigneur. Lorsqu'il a prié dans Jean 17 en disant, « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confié, mais je prie, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui viendront après, qu'ils puissent être un, comme moi je suis un, comme moi je suis avec toi. » Qui puisse être un en nous, qui puisse être à notre image. C'est là la volonté du Seigneur. Et à travers la parole de Dieu, nous pouvons comprendre qui est Dieu. À travers la parole de Dieu, nous pouvons comprendre qui est Jésus. Nous pouvons observer, nous pouvons imaginer comment il a marché, comment il a fonctionné. Nous pouvons comprendre le cœur de Dieu, nous pouvons comprendre les attentes de Dieu afin d'agir comme lui, afin de manifester les mêmes œuvres que lui. Nous nous souvenons, bien aimés, que la première fois où les chrétiens ont été appelés chrétiens, c'était à travers leur manière de vivre. Lorsque les gens les ont observés, ils ont vu que ces gens-là marchaient comme Christ. Ils n'ont pas proclamé avec leur voix qu'ils étaient chrétiens, mais leur manière de vivre témoignait qu'ils appartenaient à Christ. Et c'est là aussi la volonté de Dieu pour nous. Alors nous allons voir, bien aimés, qu'il y a un côté qui caractérise le Seigneur, un côté qui est propre à Dieu. Et je crois que dans cette manifestation de Dieu, nous sommes aussi appelés à lui ressembler. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Dieu veille. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur son œuvre. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 9 que nous sommes ouvriers avec Dieu. Lorsque nous sommes ouvriers avec une personne, c'est que nous avons quelque part la même responsabilité. C'est que nous devons avoir la même attention pour l'œuvre dans laquelle nous travaillons. Que nous devons avoir l'amour pour la même œuvre dans laquelle nous travaillons. Donc si nous sommes ouvriers avec Dieu, ça nécessite donc que nous ayons la même attention de Dieu pour son œuvre. Que nous ayons le même amour que Dieu pour son œuvre, qui est de sauver les âmes. Donc si le Seigneur aime, nous sommes aussi appelés à aimer, bien aimés. On ne peut pas aujourd'hui fonctionner dans une famille, dans un groupe, dans une entreprise s'il n'y a que deux ou trois personnes qui s'intéressent au projet. Lorsque un projet est lancé, cela demande la participation de tous. Si aujourd'hui dans un jardin, celui qui doit arroser dit « je n'arrose pas », mais celui qui a taillé les roses, finalement, les a taillées pour rien parce qu'elles finiront par mourir, puisque celui qui devait arroser ne l'a pas fait. Mais si l'attention est la même, si le désir de faire les choses correctement est le même, alors celui qui taille les haies le fera correctement. Celui qui doit arroser le fera aussi correctement, parce que tous les deux auront le même salaire, parce que tous les deux mangeront du fruit de cette production-là. C'est la même chose, bien-aimés. L'œuvre dans laquelle nous sommes doit être une œuvre dans laquelle nous devons tous être engagés selon l'image de Dieu. Si le Seigneur a soif de sauver les âmes, nous devons aussi avoir soif de sauver les âmes. Et pour ce faire, le Seigneur nous a laissé sa parole. Il nous demande de veiller sur nous. Et nous allons voir le propre exemple de Dieu, l'exemple du Seigneur, et pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous et pour essayer de comprendre ce que nous devons faire chacun à notre place. Psaume 121. Psaume 121, la Bible dit, à partir du verset 1er, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 12. À partir du verset 11, nous allons prendre. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ? » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dans le psaume 121, nous avons vu la réflexion de celui qui a écrit le psaume. Il dit, « Mais je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Il se pose une interrogation, mais la réponse lui vint de suite. Il dit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Voici celui qui te garde, ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est lui qui garde ton départ, mais c'est lui qui garde aussi ton arrivée. » Lorsque nous parlons de départ et d'arrivée, nous parlons d'un commencement et d'une fin. Mais entre le départ et la fin, il se passe beaucoup de choses. Celui qui court le 100 mètres, il part du départ pour arriver 100 mètres plus loin. Mais d'ici les 100 mètres plus loin, beaucoup de choses peuvent arriver. Il peut trébucher, il peut tomber, il peut être essoufflé avant d'arriver à cet objectif-là qui est les 100 mètres. Et pour nous, enfants de Dieu, nous sommes dans une vie qui a eu un commencement dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur. Le processus de Dieu, l'avenir que Dieu a pour nous, a commencé dès l'instant où nous avons confessé Jésus-Christ. Et nous savons que l'objectif final est la vie éternelle. Mais entre le fait que nous acceptons Jésus-Christ aujourd'hui et la vie éternelle, des semaines peuvent passer, des mois peuvent passer, des années peuvent passer. Et pendant tous ces temps, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des épreuves. Et la Bible nous dit que du départ jusqu'à la fin, Celui qui nous donne la vie nous garde. Il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que pendant tout le parcours, le Seigneur ne ferme pas les yeux. Le Seigneur ne ferme pas les oreilles, mais il est attentif chaque jour à tout ce que nous pouvons faire. Nous voyons, lorsque nous regardons la course du 100 mètres à la télé, bien-aimé, il suffit juste que la télé s'éteigne ou que la caméra ne fonctionne pas, nous allons rater un morceau de la course qui nous permettra pas de bien évaluer la victoire de celui qui aura gagné. La caméra reste attentive, reste allumée tout le long de la course pour nous donner l'état réel des choses, pour nous donner le véritable film des choses. Et avec le Seigneur bien-aimé, c'est la même chose. Dieu veille sur nous. Il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur garde son attention sur nous. Chaque jour, à chaque instant, le Seigneur veille. Que ça soit dans l'épreuve, que ça soit dans la disette, dans la faim, comme dans l'abondance, le Seigneur a les yeux posés sur nous. La Bible nous dit que Dieu est notre Père. Il est Dieu, mais il est aussi notre Père. Un père, une maman qui aime son enfant, veillera sur lui chaque jour. Lorsque l'enfant est encore nourrissant, même la nuit, on veille sur l'enfant. Surtout quand il est malade, lorsqu'il est en position de faiblesse. Les nuits des parents deviennent courtes parce que l'attention doit être portée sur l'enfant. Et le Seigneur fait cette promesse-là, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. À chaque instant, chaque route que nous empruntons, le Seigneur est là avec nous. Chaque épreuve que nous passons, le Seigneur est là avec nous. Il a dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Le Seigneur veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse, afin que son nom soit élevé. La Bible nous dit dans Jean 14 que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il le fera afin que le Père soit glorifié. Ce qui sort de notre bouche et qui entre dans la volonté de Dieu, le Seigneur veille sur cette confession pour qu'elle s'accomplisse, pour que son nom soit glorifié. Il a dit à Pierre, sur la confession que tu as faite, ce que tu as reconnu en disant que je suis le Fils de Dieu, alors moi je bâtirai mon église et les portes de la mort ne prévaudront point sur elle. Et le Seigneur veille sur cette parole que nous expérimentons, que nous pouvons témoigner aujourd'hui. Lorsque nous regardons dans l'histoire, comment le diable a voulu détruire l'église, comment le diable a voulu détruire le peuple de Dieu, en utilisant des hommes, en utilisant des événements. Mais l'église de Dieu vit encore aujourd'hui, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Cette parole que le Seigneur a dite en disant que le séjour des morts ne prendront jamais le dessus sur son église, c'est ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui. Des hommes passent, des rois passent, mais la parole de Dieu subsiste toujours. Ceux qui ont cherché à détruire le christianisme, aujourd'hui sont dans le tombeau. Ceux qui cherchent à contredire le christianisme, aujourd'hui ils sont dans le tombeau. Mais la parole de Dieu est encore active. La parole de Dieu est encore sous nos yeux et nous pouvons témoigner qu'elle est réelle parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Seigneur dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est une promesse qu'il nous fait afin de nous donner l'assurance que quelles que soient les situations, que quels que soient les événements, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne sommeille ni ne dort. Et cela doit être une assurance pour nous. Quel que soit le temps, quel que soit le moment où nous élevons la voix vers Dieu, il ne sommeille ni ne dort, Dieu entend. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu a veillé sur son peuple Israël. Nous savons ce que les Allemands ont voulu faire. Avant les Allemands, nous voyons ce que les peuples anciens ont voulu faire. Les rois de Babylone, les Chaldéens, ils ont cherché à détruire Israël. Mais Israël existe encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur a fait des promesses à son peuple. Et le Seigneur ne peut pas se taire. Le Seigneur ne peut pas dormir. Le Seigneur ne se reposera pas tant que ses promesses en faveur de son peuple ne sont pas accomplies. Et ce même Dieu qui est le Dieu d'Israël, c'est ce même Dieu qui est aussi notre Dieu. Si nous avons des exemples que Dieu a donnés dans sa parole, à travers des promesses qu'il a faites et qui se sont accomplies, si nous reconnaissons, si nous confessons que ce Dieu-là est aussi notre Dieu, alors nous devons aussi être certains que les paroles et les promesses qu'il nous a faites s'accompliront aussi, bien-aimés. Le Seigneur a dit à Habacuc, « Voici les paroles que je te donne, écris-les, grave-les. Elles courent vers leur terme. Elles s'accompliront. Si elles tardent, attends, car elles s'accompliront certainement. » La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qui sort de sa bouche s'accomplira toujours parce qu'il est fidèle et il veille sur sa parole. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde notre départ et c'est lui qui garde notre arrivée. Ça, c'est l'assurance, bien-aimée, que le Seigneur nous donne. Il a les regards posés sur chacun d'entre nous. Jérémie 29, 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà la parole que Dieu donne à son peuple. « J'ai formé des projets sur vous, un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de bénédiction. » Un projet d'assurance. La Bible dit que dans le Seigneur, il n'y a point de favoritisme. Si nous savons que Dieu a aimé son peuple, alors la Bible nous dit aussi dans Jean 3, 16 qu'il a tant aimé les hommes, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. Nous voyons dans l'Ancien Testament comment Dieu a aimé son peuple. Lorsque nous lisons le livre des Juges, tant de fois le peuple s'est rebellé contre Dieu. Tant de fois le peuple a péché contre Dieu, mais autant de fois Dieu a racheté son peuple. Autant de fois Dieu a relevé son peuple, parce qu'il avait l'amour pour son peuple. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a aussi tant aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a trouvé bon de donner Jésus-Christ à notre place. Alors que nous méritions la mort, alors que nous ne méritions pas la vie, que nous ne méritions pas d'être restaurés dans la nature de Dieu, que nous ne méritions pas de prononcer son nom. Le Seigneur a donné son Fils unique à la croix. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Alors si ce Dieu-là qui a aimé Israël a fait la promesse à Israël que j'ai un plan pour toi, un plan de paix et de bonheur, bien-aimés, que dirons-nous? Nous qui savons que Dieu a donné son Fils unique pour nous, aurait-il un plan de malheur? Dieu a un plan de bonheur. Dieu a un plan de paix. Non seulement sur la terre, mais de manière excellente dans le ciel. Dieu nous promet quelque chose qu'aucun homme ne peut nous donner. Dieu nous promet quelque chose qu'aucune religion peut nous apporter. Dieu nous promet quelque chose que même les personnes qui nous ont mises au monde, même les personnes qui nous ont aimés, qui se sont sacrifiées pour nous éduquer, qui se sont sacrifiés pour pourvoir à nos besoins, ne peuvent pas non plus nous donner. Dieu nous promet ce que l'humanité ne peut pas donner. Il a un plan de paix et de bonheur pour nous, par excellence. Et il dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Seigneur ne dormira pas. Le Seigneur ne fermera pas l'œil tant que les promesses qu'il a faites pour nous ne s'accomplissent pas. Dieu veille sur sa parole afin que son nom soit honoré, afin que son nom soit glorifié. Il dit comment l'ennemi se réjouira-t-il de notre sort? Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le Seigneur dit que s'il nous a fait passer par l'épreuve, s'il nous a éprouvés dans la fournaise de l'adversité, c'était à cause de son amour. Mais ce n'est pas pour que l'ennemi se glorifie. Ce n'est pas pour que les gens rient et se disent « Nous l'avons eu ». Dieu le fait pour la gloire de son nom. Lorsqu'il a vu Satan, alors que Satan venait de se promener sur la terre comme il disait, le Seigneur lui dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Satan lui dit « Mais Job t'aime parce que tu l'as béni. Enlève tout ce que tu lui as donné et tu verras qu'il te maudira en face. » Le Seigneur a éprouvé Job dans la fournaise de l'adversité. Le Seigneur a éprouvé Job par la puissance de Satan, mais pour que son nom à lui soit glorifié. Ainsi, après l'épreuve, Job a confessé. J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Qui est comme Dieu? Le nom de Dieu a été glorifié. Le nom de Dieu a été honoré. La femme de Job l'a poussée à maudire Dieu. Maudit Dieu et meurt. Job a confessé, je suis venu nu. Et je repartirai aussi nu lorsque je n'avais rien. Mais aujourd'hui, est-ce que je maudirai Dieu parce qu'il a tout repris? Dieu a donné, Dieu a repris. Et Dieu a été glorifié. Ce qu'il avait confessé lorsqu'il avait vu Satan, en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Job, par son attitude, par sa confession, il a attesté, il a confirmé ce que Dieu pensait de lui. Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Pendant que Job était éprouvé, le Seigneur avait les regards posés sur lui. Pendant que Satan parcourait la terre, Dieu avait les regards posés sur Job. Combien même nous sommes éprouvés, combien même nous sommes dans les difficultés, le Seigneur a le regard posé sur chacun d'entre nous. Lorsque nous méditons notre vie passée, lorsque nous méditons le nombre de fois où nous étions dans des difficultés, et lorsque nous levons les yeux aujourd'hui vers Dieu, nous pouvons comprendre que réellement, les fois où nous sommes passés à côté de la mort, les fois où la vie nous a épargnés, les fois où nous sommes sortis de certaines épreuves, réellement le Seigneur avait le regard posé sur nous. Bien-aimés, on nous parle de la mort subite du nourrisson. Il y a des bébés qui viennent au monde, mais qui ne dépassent pas 3 mois. Pendant qu'il est dans le sein maternel, les hommes ne se contentent que de l'échographie pour voir ce qui se passe. Et même quelquefois, l'échographie ne révèle pas tout. Mais la Bible dit qu'avant même que nous soyons formés, Dieu nous connaissait déjà. Il veillait déjà sur nous. Et aujourd'hui que nous sommes devenus à l'âge adulte, qui peut confesser que c'est par la force des hommes qu'il est en vie? Qui peut confesser que c'est par la volonté des hommes qu'il est en vie? Nous nous endormons, nous nous réveillons sans savoir ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes dans le sommeil, nous ne maîtrisons plus nos membres. Nous n'avons pas la capacité de nous faire respirer tout seul. Mais les choses sont ainsi. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que Dieu a veillé sur chacun d'entre nous. C'est par la main de Dieu que nous sommes là aujourd'hui et que nous pouvons l'honorer. Parce qu'il veille sur chacun d'entre nous. Il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Et Dieu nous a donné son Esprit Saint pour que nous puissions marcher comme lui, comme autrefois, parce que Adam avait failli. Nous sommes là parce que le Seigneur l'a voulu. Aucun des hommes sur cette terre ne vit par sa propre capacité. Parce que si c'était le cas, tous ces millionnaires-là auraient la capacité de rester en vie. Les enfants des milliardaires ne mourraient pas. Mais la Bible dit qu'il y en a un seul qui ne sommeille ni ne dort. C'est celui qui est capable de nous préserver de toute chute. C'est celui qui est capable de nous garder depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours ne peut me venir que de celui qui ne dort pas, de celui qui voit toutes choses et qui est capable d'agir en tout temps. Lorsque nous sommes dans les hôpitaux, nous placerons notre confiance dans les chirurgiens qui sont là, parce qu'ils sont présents. Lorsque nous sommes dans la rue et qu'un malaise peut nous arriver, on placera notre confiance dans les passants parce qu'ils sont là. Mais lorsque nous sommes dans le sommeil pendant que le chirurgien dort, lorsque nous sommes dans le sommeil pendant que les passants sont chez eux, qui d'autre que Dieu peut veiller sur nous? Qui d'autre que Dieu peut prendre soin de nous? Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mais celui qui garde Israël nous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ à la croix. Nous sommes là parce que le Seigneur l'a voulu. Et dans sa volonté, le Seigneur nous a fait une promesse. C'est de nous garantir un avenir. Et cet avenir est déjà planifié par Dieu. Cet avenir est déjà défini par Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2:10 que nous avons été créés à son image, que nous avons été créés pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tout est déjà préparé, tout est déjà prêt. Et ce que nous devons accomplir, nous l'accomplirons parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible dit que dans toutes les promesses que le Seigneur avait faites à Israël, que le Seigneur avait faites à son peuple, Josué a confessé qu'aucune de ses promesses ne sont tombées. Tous se sont accomplis. La Bible déclare que la mémoire de l'Éternel dure de génération en génération. Le Seigneur n'oublie pas son héritage. Le Seigneur n'oublie pas son peuple. Mais il veille afin que son nom à lui soit glorifié. Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Proverbes chapitre 24. Proverbe 24, et ensuite nous aurons dans 2 Timothée 2. Proverbe 24, verset 16. Car sept fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu demeure infidèle. Combien même nous sommes infidèles. La Bible nous dit dans Proverbe 24 que sept fois le juste tombe, mais il se relève, non pas par ses propres forces, mais il se relève par la grâce de Dieu. Le juste, c'est celui qui a accepté le Seigneur dans sa vie. Le juste, c'est celui qui marche dans les voies de Dieu. Le juste, c'est celui qui accomplit la parole de Dieu, celui qui fait confiance au Seigneur et qui marche par la foi. C'est celui-là qui est considéré comme juste. Abraham n'a pas été considéré comme juste à cause de ses œuvres. Parce que nous voyons qu'il est tombé. Nous voyons qu'il a péché. Abraham a été considéré comme juste parce qu'il a manifesté la foi. En obéissant au Seigneur. En acceptant d'abandonner sa patrie pour aller là où Dieu l'envoyait. Le juste, c'est celui qui marche avec Dieu. Mais la Bible nous dit que le juste aussi peut lui arriver de tomber. Le juste aussi peut commettre des erreurs. Et lorsque nous commettons une erreur, bien-aimée, C'est une infidélité envers Dieu. Combien même le Seigneur nous reprend, combien même le Seigneur nous pardonne, combien même le Seigneur accepte notre repentance. Mais ça nous arrive de tomber. Et autant de fois que nous tombons, autant de fois le Seigneur nous relève. Bien-aimés, nous voyons la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu a un plan pour nous, le Seigneur n'annule pas ce plan parce que nous commettons des fautes. Le Seigneur a fait la promesse qu'il a un plan de paix et de bonheur. Et quel que soit le nombre de fois où nous commettons des infidélités, le Seigneur travaille toujours afin que le plan qu'il a pour nous s'accomplisse, parce qu'il est fidèle. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne sommeille ni ne dort, quelles que soient les fautes que nous pouvons faire. Le Seigneur veille sur la parole qui est sortie de sa bouche. Le Seigneur veille sur les promesses qu'il nous a faites. Le Seigneur ne nous condamne pas. Autant de fois nous tombons, autant de fois Dieu nous relève. Parce qu'il ne peut pas se renier. Le Seigneur ne peut pas changer sa parole. Le Seigneur ne peut pas échanger sa promesse. Le Seigneur ne peut pas oublier sa promesse. Il est fidèle à sa parole, combien même nous, nous sommes infidèles vis-à-vis de lui. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient se repentir. Celui qui vient à se repentir. Il a un plan de paix et de bonheur pour nous. Dieu veille sur toutes les paroles qu'il a prononcées à notre encontre. Il veille pour que ces paroles-là s'accomplissent. Bien-aimé, ça c'est une assurance qui doit nous amener à ne pas avoir peur des malédictions. Tant que nous marchons avec Dieu, quel que soit le nombre de sataniques qui se lèvent contre nous, la Bible dit que Dieu veille sur le plan qu'il a pour nous. Quelle que soit la négligence des hommes, combien de chrétiens ont peut-être eu des mauvais parents, des parents qui ont manifesté une certaine inconscience, des parents qui n'ont pas veillé sur eux comme il le fallait. Mais parce que Dieu avait un plan, le Seigneur a veillé sur nous, jusqu'à ce que nous puissions lui dire oui pour entrer dans le véritable plan qu'il avait, ou bien pour d'autres dire non. Mais dès l'instant où nous venons au monde, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit lorsqu'il a donné la capacité à l'homme de se reproduire. À chaque fois qu'un être humain vient au monde, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et le Seigneur veille sur cette parole. Le Seigneur veille jusqu'à ce que nous soyons dans l'âge mature pour pouvoir l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ou bien pour d'autres cas, le refuser. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la Bible dit qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe du ciel sans que Dieu le sache. Rien ne se passe sur cette terre sans que le Seigneur soit au courant. La Bible dit dans le psaume 50 que le monde et tout ce qu'il renferme appartient à Dieu. Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Et c'est ce Dieu-là qui veille sur le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Quel que soit l'homme, le serviteur, la servante, qui fait en sorte d'être un blocage pour nous, il y a une chose qui est certaine, c'est que le plan de Dieu pour nous s'accomplira. Le fait que le Seigneur ne sommeille ni ne dort, bien-aimé, doit nous donner l'assurance dans notre marche de chaque jour. Lorsque un événement se produit, nous devons avoir l'assurance que le Seigneur est au courant. Le Seigneur l'a vu avant même que la chose se manifeste. Dieu connaît toutes choses, car il ne sommeille ni ne dort. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances, bien aimées, c'est ce que nous ne pouvons pas prévoir. C'est ce que nous ne pouvons pas déterminer. Nous voyons combien même les hommes font des prévisions à travers la météo. Ils arrivent quand même à être surpris parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces choses-là. Nous avons vu il y a environ peut-être 2 semaines ce qui s'est passé dans la région parisienne. En France, les automobilistes ont été bloqués dans leur voiture, certains pendant 15 heures, parce que les routes étaient impraticables. Avec les moyens technologiques, avec les engins qu'ils ont, des personnes sont restées 15 heures dans leur voiture. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des circonstances. Mais la Bible dit que Dieu, lui, maîtrise les circonstances. Il maîtrise les situations imprévues. Car il ne sommeille ni ne dort. Dieu veille sur toutes choses. Et Dieu veille principalement sur nous. Parce qu'il nous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ à la croix. Dieu veille sur le plan qu'il a planifié, qu'il a déjà préparé pour chacun d'entre nous. Et il veillera personnellement à ce que toutes ces choses-là puissent s'accomplir. Car il ne peut se renier lui-même. Le Seigneur est fidèle. Nous voyons bien aimé les promesses que le Seigneur avait faites à Israël. Et je prends encore l'exemple du livre des juges. Combien de fois le peuple a été se prosterner devant d'autres faux dieux? Mais le Seigneur avait fait la promesse. À Abraham, il avait fait la promesse à Jacob, à Isaac, que son peuple entrera dans la terre promise. Combien même le peuple s'est rebellé dans le désert à la sortie de l'Égypte. Le Seigneur a voulu détruire ce peuple. Mais il veillait que sa parole puisse s'accomplir. Combien de fois le Seigneur a voulu détruire son peuple? Mais il s'est souvenu de cette promesse. Il s'est souvenu de son serviteur David. Dieu veillait sur sa parole. Moïse a prié. Seigneur, mais que vont dire les autres nations si ton peuple périt là? Que vont dire les autres nations? Voici, il les a fait sortir de l'Égypte pour encore leur faire du mal. Moïse a rappelé au Seigneur la promesse qu'il avait envers son peuple. Certes, les incrédules, ceux qui ont été en rébellion constante vis-à-vis de Dieu, ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais le peuple qui porte le nom d'Israël est entré quand même dans la terre promise, parce que le Seigneur veillait sur sa promesse. Malgré que le peuple a été rebelle, à plusieurs reprises, le Seigneur n'a pas oublié sa promesse. Il a veillé sur sa parole pour l'exécuter. Car il ne partage sa gloire avec personne. Moïse a prié parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Moïse a prié parce qu'il connaissait la promesse de Dieu. Mais Moïse a prié aussi parce qu'il était ouvrier avec Dieu. Moïse connaissait l'amour que Dieu avait pour son peuple. Et Dieu a choisi Moïse parce qu'il connaissait l'amour que Moïse avait pour son peuple. Il y avait un objectif pour ce peuple. Mais pour que cet objectif aille au bout, il fallait que ses ouvriers aient le même amour, la même attention pour ce peuple-là. Dieu avait cet amour, Moïse avait cet amour. Et c'est pourquoi Dieu l'a choisi. Et si Dieu nous a choisis, bien-aimés, c'est pour que nous soyons à son image. Si Dieu nous a choisis, c'est pour une œuvre, c'est pour une mission, pour que nous puissions être ouvriers avec lui. Et la Bible nous dit dans Amos 3:3 que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas concertés. Deux hommes ne peuvent pas œuvrer ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord sur les tenants et les aboutissants, s'ils ne se sont pas mis d'accord sur les objectifs. Dieu pouvait marcher avec Moïse, parce qu'ils avaient le même amour pour le peuple. Dieu pouvait marcher avec Moïse parce que Moïse avait adhéré à la vision de Dieu. Il avait adhéré à l'objectif de Dieu. Ils se sont concertés. Ils se sont mis d'accord pour être ouvriers pour le même objectif. Si le Seigneur veille sur son œuvre et que nous nous confessons que nous sommes de Dieu, que nous sommes ouvriers avec Dieu, alors parce que Dieu veille, nous aussi nous devons veiller. Parce que Dieu aime l'homme, nous aussi nous devons aimer l'homme. Nous ne pouvons pas être ouvriers avec Dieu si nous n'avons pas le même projet que Dieu. Si nous n'avons pas adhéré à son projet. Alors quand le Seigneur veille pour que son œuvre s'accomplisse, voici, il y a des chrétiens qui dorment. Je parle d'une manière spirituelle, mais d'une manière physique, bien aimé, c'est aussi la réalité. On l'a déjà dit, c'est étonnant de voir le nombre de chrétiens qui dorment pendant les cultes. Pendant que Dieu veille, ses enfants dorment. Souvenons-nous, bien aimé, de la parabole des vierges sages et des folles. Certaines avaient pris leurs précautions. Elles se préparaient à la venue de l'époux. Pendant que les autres étaient folles, étaient occupées à autre chose, étaient occupées à ce qui était secondaire. Pendant que Dieu veille sur son œuvre, si nous sommes ouvriers avec Dieu, nous devons aussi veiller avec le Seigneur. Nous lisons Ésaïe 62. Verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Dieu a de l'amour pour son peuple. Le Seigneur a de l'amour pour la terre qu'il s'est choisie. Le Seigneur fait une promesse. Il dit, je te rétablirai. On ne t'appellerait plus délaissé, mais tu seras vraiment mon plaisir. Le Seigneur montre qu'il va travailler jusqu'à ce que cette ville soit rétablie, jusqu'à ce que l'honneur soit rétabli. Que les nations sachent, que toutes les nations le voient comme l'aurore. Que ça soit clair que tu es mon peuple, que tu es la terre que j'ai choisie. Dieu va travailler sans relâche. Parce que c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeillera pas. Il ne dormira pas. Parce que Israël doit être son plaisir. Il dit, ta terre aura un époux. Jérusalem sera rétablie. Bien-aimé, l'Église fait la joie de Dieu. L'Église qui est persécutée pendant ce temps terrestre sera un jour élevée dans toute sa gloire. Le Seigneur fait une promesse à Israël. Il dit que tu feras ma joie. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ta terre aura un époux. Mais nous savons aussi que l'Église aussi aura un époux. Combien même le nom de Dieu est blasphémé par les païens. Combien même il y a la confusion avec toutes sortes d'églises qui naissent comme des champignons. Le Seigneur un jour rétablira la réalité. La réalité sera visible aux yeux de tous. Le Seigneur dit dans le psaume 37 qu'il fera luire la justice comme le soleil à son midi. Les choses seront claires pour Jérusalem, comme elles le seront aussi pour l'Église de Dieu. Et le Seigneur parle à cette ville, à Jérusalem, en disant, voici sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez à l'Éternel, point de repos pour vous. Priez, intercédez pour Jérusalem, jusqu'à ce que le Seigneur les rétablit. Rappelez au Seigneur ses promesses, jour et nuit, jusqu'à ce que le Seigneur les rétablit. L'œuvre pour laquelle le Seigneur avait un amour inconsidérable, un amour incomparable. Le Seigneur dit à cette ville-là, moi je t'aime, mais il y a aussi des gardes que j'ai placés, qui ont cet amour et qui prieront jusqu'à ce que tu sois rétabli. Le Seigneur avait des ouvriers avec qui il travaillait. Il a placé des ouvriers qui ont le même amour que lui, il a pour Israël. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 1:6 que le Seigneur a fait des chrétiens un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes les sacrificateurs que Dieu a mis à part afin d'intercéder, afin d'adorer, pour que l'œuvre qu'il a commencée avec l'Église puisse atteindre son objectif. Dieu a un amour inconsidérable pour l'Église, mais il a choisi aussi des hommes et des femmes qui ont un amour inconsidérable pour l'Église afin d'œuvrer ensemble. Le Seigneur veut que nous puissions être ouvriers. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et Dieu dit à Israël, j'ai placé des gardes sur tes murs qui ne se tairont ni jour ni nuit, qu'ils vont veiller. Voici, ils ne sommeillent ni ne dorment. Et Dieu cherche des ouvriers qui ne sommeilleront point, qui ne dormiront point, mais jour et nuit, qui rappelleront les promesses à Dieu en faveur de son peuple. Et Dieu cherche aussi des ouvriers dans l'Église qui prieront pour l'Église, qui prieront pour la cause de l'Église, pour le salut de l'humanité, qui continueront à travailler dans l'œuvre pour laquelle le Seigneur était venu, de faire de toutes les nations des disciples, de venir chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Mais Dieu cherche des ouvriers qui auront ce même amour que lui. Je le disais, bien-aimé, que depuis la création, le souci de Dieu était que l'homme soit à son image. La Bible nous dit que Dieu veille. Dieu cherche aussi des hommes et des femmes qui vont veiller pour travailler avec lui. Nous devons être comme ces gardes, placés sur la tour, jour et nuit, qui embêtent le Seigneur dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, dans l'intercession, pour rappeler au Seigneur toutes ses promesses en faveur des hommes, toutes ses promesses en faveur de l'Église, jusqu'à ce qu'il les accomplisse. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. et nous devons œuvrer avec lui, bien-aimé. Nous devons veiller avec Dieu. Luc chapitre 18. Au verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette femme embêtait ce juge pour qu'on lui fasse justice. La Bible dit que ce juge-là était orgueilleux. Il n'avait d'égard pour personne. Ce que pouvait vivre cette veuve ne l'intéressait même pas, ne l'interpellait même pas. Mais cette femme a persévéré. Elle a embêté ce juge jusqu'à ce qu'on lui donne son droit. Et le Seigneur explique. Il dit, mais entendez la réponse de ce juge qui n'a d'égard pour personne, qui n'a de respect pour personne. Mais si un homme aussi mauvais comme lui a su rendre justice à cette veuve, alors à combien plus forte raison Dieu qui est bon fera-t-il justice à ses élus qui crient jour et nuit, à ses élus qui veillent, à ses élus qui ne sommeillent point, qui ne dorment point, mais qui crient justice, à ses élus qui veulent voir la vérité être rétablie, à ses élus qui veulent voir le salut être manifesté. Le Seigneur dit, mais comment Dieu refusera cela à ses élus, jour et nuit, ils crient vers Dieu. Ils veillent, ils ne dorment pas, mais ils s'attendent à Dieu. Point de repos pour vous. Jour et nuit priez, jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse Jérusalem. Le Seigneur dit qu'il fera justice à ses élus. Le Seigneur fera justice à ses ouvriers qui veillent avec lui, qui crient jour et nuit. En rétablissant, bien-aimé, la ville de Jérusalem, c'est le nom de Dieu qui sera glorifié. Le Seigneur dit dans Jean 14, 12, que ce que nous demandons, Dieu le fera, Jésus-Christ le fera, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Dans un cas comme l'autre, bien-aimé, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le Seigneur nous apprend que lorsque nous prions pour un sujet qui entre dans la volonté de Dieu, le Seigneur se sent comme obligé d'agir pour que son nom soit glorifié. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5, 14, 15 que tout ce que nous demandons, selon la volonté de Dieu, alors nous avons cette assurance-là, que Dieu va nous exaucer. Tout ce que nous demandons, qui entre dans la volonté de Dieu, la Bible dit que nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Et le nom de Dieu sera glorifié. Dieu cherche des ouvriers qui vont veiller avec lui dans sa moisson. Dieu cherche des ouvriers. Comme il est écrit, le Seigneur dit, rappelez mes promesses et plaidons ensemble, réveillez ma mémoire. Dieu cherche des ouvriers qui vont avoir le même souci que lui. Dieu cherche des ouvriers qui vont veiller avec lui. L'œuvre de Dieu bien-aimé doit être aussi notre œuvre. Le souci de Dieu doit aussi être notre souci. Lorsque nous avons le souci, le Seigneur donne les moyens. Lorsque nous avons le souci, le Seigneur est favorable pour agir. Le Seigneur regarde au cœur. Si la Bible nous dit que Dieu a placé sur Jérusalem des gardes qui ne se tairont ni jour ni nuit, bien-aimés, s'ils peuvent tenir, la Bible nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est par la force de Dieu. Si nous pouvons veiller, ça sera par la force de Dieu et non par nos propres forces. Alors, bien-aimés, comment Dieu refusera-t-il de nous donner la force si nous avons le souci? C'est en voyant le souci que nous avons dans le cœur que le Seigneur nous donne la capacité de produire quelque chose. C'est en voyant le souci que nous avons dans le cœur que le Seigneur nous utilisera pour sa mission. Nous voyons quand, lorsque le Seigneur guérissait les malades, lorsque le Seigneur voyait la détresse de l'homme et qu'il accomplissait des miracles. Plusieurs fois dans la Bible, il est écrit, le Seigneur fut ému de compassion. Ce qui poussait le Seigneur à agir était produit par la compassion qu'il avait. Le souci qu'il avait, en quelque sorte, l'obligeait à produire quelque chose pour sauver l'homme. Et le désir de Dieu pour l'homme, pour le salut de l'homme, n'a pas changé. Mais Dieu manifeste aujourd'hui ce désir-là en nous. Dieu fait de nous des ouvriers pour que nous puissions manifester le même amour afin qu'il puisse nous utiliser. Le fait de veiller bien-aimé, c'est la démonstration que nous tenons à la chose. Lorsqu'on veille sur un enfant, c'est le témoignage de l'amour que nous avons pour cet enfant. Nous voyons bien-aimés ceux qui travaillent de nuit dans des usines. S'il y a un travail de nuit, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Ce n'est pas gratuitement que les gens vont travailler de nuit. C'est parce qu'il y a un intérêt derrière. La motivation peut être différente pour celui qui travaille comme pour l'employeur. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a un intérêt derrière. Donc c'est le fait de bien veiller sur le travail qu'on a à faire que le résultat sera aussi bon. Nous voyons, bien-aimés, là où je travaille quelquefois, on récupère certaines marchandises qui sont encore bonnes à manger. Mais simplement, il y a des moments où les gens travaillent de nuit. Alors, lorsqu'il y a un peu de distraction, lorsqu'il y a un peu de bavardage ou peut-être de la fatigue, un aliment passe, on n'a pas changé, je dirais, le numéro qu'ils doivent mettre sur chaque produit bien-aimé. Et il y a une quantité de produits sur lesquels on imprime des fausses dates. Et ça, on ne peut plus les vendre. Pourquoi ? Parce que les gens qui devaient veiller à ce que les machines fonctionnent correctement, peut-être ont été discutés, ont été boire un café en disant « bon, la machine est bien réglée, ça va marcher. » Mais ce jour-là, la machine a fait une erreur. Et toute une production ne peut pas être utilisée. Alors, il y a certaines choses qu'on donne, mais il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle. Parce que ceux qui devaient veiller n'ont pas veillé correctement. Si le Seigneur veille, c'est parce qu'il a un amour considérable. Bien-aimé, le Seigneur a dit à Pierre, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Lorsque nous lisons Ézéchiel 34, bien-aimés, nous voyons ce que c'est que paître des brebis. Le Seigneur dit, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger veille sur ses brebis jour et nuit. Il veille sur son troupeau. Et le Seigneur dit à Pierre, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Bien-aimé, pour veiller sur l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, il faut de l'amour. Si on n'a pas d'amour pour Dieu, c'est normal, bien-aimé, que nous n'arrivons pas à veiller. L'amour que le Seigneur avait pour ses brebis, il a dit à Pierre, « Ça, ce sont mes brebis, je vais me sacrifier pour elles. » Ces brebis ont une grande valeur. Alors si réellement tu m'aimes, veille sur ces brebis-là. Bien-aimés, si réellement nous avons de l'amour pour Dieu, alors nous veillerons aussi sur son œuvre. La négligence, la distraction, bien-aimés, c'est le témoignage que nous ne sommes pas encore arrivés à l'amour que le Seigneur voudrait. La négligence a des conséquences considérables. La distraction a des conséquences considérables. Dans la région parisienne, il y a quelques années, je ne sais pas si c'était un homme ou bien une femme qui faisait le bain de son enfant. Alors le téléphone sonne, il court pour aller chercher le téléphone. Combien de temps il est resté, je ne sais pas. Est-ce qu'il attendait un coup de fil important? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'est qu'au moment où il s'est souvenu que l'enfant était resté dans la baignoire, c'était trop tard. L'enfant était noyé. Veiller sur l'œuvre de Dieu bien-aimé nécessite un amour inconditionnel. Le Seigneur doit être notre priorité. Est-ce que cette personne attendait un coup de fil pour un travail? Est-ce qu'attendait un coup de fil de l'étranger, je ne sais d'où? Mais pour laisser l'enfant seul dans le bain, pour aller récupérer le téléphone, alors c'est qu'il y a un problème. Le Seigneur a dit à Pierre, si tu m'aimes, la preuve de ton amour, alors paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mon œuvre, si réellement tu m'aimes. Nous clôturons avec Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. » Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Le Seigneur savait que le moment difficile, le moment où les choses devaient prendre toute leur signification, devait arriver. La Bible nous dit que le Seigneur a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Il y a des versets, un verset de la parole qui nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. La création souffre les douleurs de l'enfantement. Lorsque le moment d'enfanter est proche, les douleurs sont grandes. L'angoisse est grande. Les difficultés sont grandes. Parce que le moment où la chose, l'enfant qui a été porté pendant 9 mois, doit se manifester, l'angoisse est grande. Jésus-Christ savait que la raison pour laquelle il était venu allait se concrétiser dès l'instant où on venait l'arrêter. Il était dans une grande tristesse et dans une grande angoisse. Bien-aimé, la Bible nous dit que le retour du Seigneur est proche et la terre souffre. La Bible nous dit dans Matthieu 24 que l'iniquité ne va faire que s'accroître. Et cela va se manifester par des tremblements de terre, entre autres par des guerres. La terre souffre parce que le retour du Seigneur est proche. Alors que le Seigneur allait être arrêté, il trouve ses disciples en train de dormir. Et il vient et leur dit, mais vous n'avez pas pu veiller avec moi juste 1 heure. C'est pas le moment de dormir. Je vous ai appelé à part, les autres sont restés. Mais vous, je vous ai choisi pour veiller avec moi. Dieu cherche des ouvriers qui vont veiller avec lui alors que le temps est proche. Les disciples étaient endormis. Le Seigneur dit, mais vous dormez, vous vous reposez maintenant. Alors que c'est le moment où on vient m'arrêter. Veillez et priez. Le Seigneur les avait pris à part pour qu'ils puissent veiller avec lui. Pendant que le monde souffre, bien-aimés, alors que le retour du Seigneur est proche, le Seigneur ne nous a pas choisis pour que nous restions dormir avec les autres. Le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions veiller avec lui. Le Seigneur cherche des ouvriers qui vont veiller avec lui. Ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est le temps de veiller. L'œuvre du Seigneur est proche de s'accomplir. Et le Seigneur nous appelle à veiller, car les temps difficiles sont là. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Il n'y a pas plus qu'hier, bien-aimés, nous entendons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour une question de pouvoir, les hommes sont prêts à se livrer, à livrer leurs semblables, à livrer leurs proches. Tel autre ne veut pas abandonner le pouvoir. Tel autre envoie des hommes à la rue, allez manifester. Les temps sont proches, bien-aimés, et le Seigneur attend de nous que nous puissions veiller avec lui. Bien-aimés, lorsque l'on parle de veiller, comprenons, ce n'est pas une question de faire des nuits blanches. Quoique si Dieu nous l'inspire dans la prière, c'est bien de le faire. Mais lorsque le Seigneur nous appelle à veiller chaque jour, c'est d'être attentionné chaque jour, de garder les oreilles ouvertes chaque jour, de garder les yeux ouverts chaque jour d'une manière spirituelle, d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, de ne pas nous laisser distraire par des choses futiles, par des choses secondaires, de ne pas nous laisser distraire par des discours politiques qui sont les mêmes depuis des années et qui ne font que se répéter. Ne pas entrer dans des débats. Comme on dit, en refaisant le monde, bien-aimé, on ne refera pas le monde. Le Seigneur nous appelle à veiller, mais pas à la manière du monde. À veiller avec les âmes que lui nous donne. Dans le jeûne, dans la prière, dans la pratique de la parole chaque jour. En aimant notre prochain. En étant attentif à la parole de Dieu. En prenant au sérieux les avertissements de Dieu. Et en travaillant dans les fonctions que Dieu nous a données. Et ne pas nous distraire dans ce qui ne nous regarde pas. Ne pas nous distraire en regardant ce que font les autres. Plus on regarde ce que fait l'autre, moins on fait ce qu'on doit faire. Le temps qu'on passe à regarder ce qu'on fait à gauche, à droite, bien aimé, c'est du temps en moins dans le travail que Dieu nous a demandé de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, mais évite les vains discours. Il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu soit dans des querelles, dans des discussions vaines. C'est une perte de temps. Le Seigneur nous appelle à veiller sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est sa parole, c'est son œuvre et l'objectif pour lequel lui-même est venu, de faire de toutes les nations des disciples, de venir chercher et sauver ceux qui sont perdus. Veiller, bien aimé, c'est aussi veiller sur notre vie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Veille sur tes enseignements. Veille entièrement sur tes enseignements. C'est alors que tu te sauveras, toi d'abord, et ensuite tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le Seigneur cherche des ouvriers bien-aimés qui vont veiller avec lui. Voici, il ne sommeille ni ne dort. La Bible dit dans Luc 6, 40 que tout disciple accompli sera comme son maître. Si Dieu veille, si le Seigneur lui-même a veillé, bien-aimés, nous devons aussi veiller avec Dieu. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, sois glorifié. Encore, Seigneur de gloire, ce soir, sois béni. Seigneur, aide-nous à comprendre que le privilège est pour nous, Seigneur. La Bible nous montre, Éternel de gloire, que tu as utilisé même des animaux pour prophétiser. Lorsque tu es entré, Seigneur Dieu de gloire, dans Jérusalem, les pharisiens ont voulu faire taire les hommes. Mais tu as dit, Seigneur, que même si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Seigneur, la Bible déclare que les arbres des champs battent des mains. Éternel Dieu de gloire, tu ne manques pas d'adorateurs. Élie croyait être seul. Seigneur de gloire, mais tu lui as dit que non. Il y avait des hommes que tu t'étais réservé, Seigneur de gloire. Des hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux. Il y avait des hommes justes que tu avais mis à part. Seigneur, même si nous ne sommes pas ouvriers avec toi, même si nous ne veillons pas avec toi, il y a une chose qui est certaine, Éternel de gloire, c'est que tu as mis des hommes et des femmes à part qui, eux, veilleront avec toi. Seigneur, le privilège est pour nous. Aide-nous à réaliser, Seigneur Dieu de gloire, que c'est une grâce que de te servir, que c'est une grâce que de pouvoir œuvrer avec toi, que de pouvoir travailler avec toi. Dans le nom de Jésus, c'est une grâce que d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce que d'être appelé serviteur de Dieu. Seigneur, aide-nous à réaliser, afin que nous puissions sortir de toute forme de négligence, de toute forme de distraction, Seigneur, qui nous empêche de veiller pour ton œuvre, d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe. Seigneur, nous reconnaissons que bien des fois nous avons été négligents, Seigneur. Bien de fois, nous n'avons pas fait de toi notre priorité. Bien de fois, Seigneur, nous avons fait passer les désirs de la chair, Seigneur, aux dépens de ta volonté. Mais la Bible déclare, Seigneur, que ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Alors si nous savons que tu nous écoutes, nous avons la chose quelle qu'elle soit. Seigneur, notre prière, Seigneur de gloire ce soir, c'est d'être rempli de ton Esprit Saint afin de te servir dans toute la vérité. Seigneur, nous voulons que tu sois notre priorité. Renouvelle notre intelligence afin que nous puissions discerner à chaque instant, Seigneur de gloire, ce que tu attends de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous voulons t'aimer aussi en retour parce que tu t'es livré pour nous à la croix. Que ton amour, Seigneur Dieu de gloire, nous pousse à t'aimer davantage, chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi que nous implorons, parce que tu as la capacité, tu as le pouvoir de nous remplir, Seigneur, de ton Esprit Saint. Tu as le pouvoir, Seigneur, de nous donner la motivation et l'amour pour le service. Seigneur, nous voulons t'aimer davantage, mais nous voulons aussi le vivre et le manifester par nos paroles et par nos actes. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te bénissons parce que tu entends. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, parce que tu nous répondras et parce que tu nous exauceras. Seigneur, nous reconnaissons une fois de plus que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur de gloire, nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur de gloire, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Purifie nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à vivre la nature, Seigneur de gloire, que tu nous as communiquée par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint règne en nous, Seigneur. Prends la première place, éternel Dieu de gloire, afin que réellement nous puissions veiller avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.